c'était un des jeux que peut-être j'ai le plus recommencé. Et c'est un jeu que j'ai envie encore de recommencer. Je m'en lasserai jamais.
Salut et bienvenue dans Du Temps et des Jeux, le podcast qui s'intéresse aux jeux vidéo qui ont le plus marqué nos invités. Moi, c'est Chris, et comme toujours, je suis accompagné de Yann.
Heureux tout le monde.
Et pour ce premier épisode de la saison 3 du podcast, on est très heureux de recevoir Sébastien Abdelhamid Godelu. Sébastien Abdelhamid est journaliste, animateur télé, producteur, réalisateur et designer. C'est un passionné qui couvre régulièrement la pop culture et la culture tout court d'ailleurs, à travers son émission Dans la Légende, disponible sur Click TV et YouTube. Il a collaboré à plusieurs reprises avec la marque Courir pour créer des sneakers inédites inspirés des jeux vidéo et des mangas. Mention spéciale à la paire de ASICS Naruto sortie en 2022 d'ailleurs. Et il est également CEO de l'agence créative Hype Notice, spécialisée dans la promotion, le marketing, la production et la création de contenu. Comment tu vas aujourd'hui, Sébastien ?
Salut tout le monde, ça va très très bien, merci. C'était long comme intro. Je fais beaucoup de choses.
Oui.
Et je fais beaucoup de choses. Non, très content d'être avec vous pour parler jeux vidéo, une de mes passions premières.
Yes, et vraiment merci de prendre le temps. Pour l'anecdote, on t'avait contacté dès décembre 2020, avant même la publication du premier épisode du podcast, et t'avais directement accepté un peu adhéré au conseil, donc c'est cool malgré les problèmes de timing, etc., de se dire qu'on a pu prendre le temps, 3 ans plus tard, de se retrouver et lancer la saison 3 avec toi.
Ouais, grave. Bah, avec plaisir. Désolé, ça a mis du temps parce que c'est compliqué de trouver des créneaux qui matchent, mais je t'avais dit oui dès le début, et donc voilà, je suis là avec grand plaisir.
C'est beau. Bah, sans plus attendre, intéressons-nous au top 3 des jeux qui t'ont le plus marqué. Pour commencer, on retourne en 1991 avec The Legend of Zelda A Link to the Past, parfois aussi appelé Zelda 3. C'est donc le troisième volet de la série The Legend of Zelda, le fameux jeu d'aventure développé et édité par Nintendo, et ça sort sur Super Nintendo entre 91 et 92 en fonction des pays. Première question pour toi, est-ce que tu te souviens de comment tu obtiens le jeu et de ta découverte de tout l'univers autour de Zelda?
Ah oui. Ah ouais, c'est une dinguerie parce que j'étais assez hermétique en fait au premier Zelda sur NES. J'avais pas kiffé en fait. J'avais pas de NES, j'avais un de mes meilleurs amis qui avait une NES et j'avais joué chez lui, mais je sais pas, j'étais assez réfractaire. Le 2, déjà, ça c'était très particulier, le game design et tout, même le gameplay. Et là, je voyais dans les journaux de jeux vidéo, journaux papier, il y avait beaucoup à l'époque, c'était très très puissant, la presse jeux vidéo, et le jeu me faisait rêver déjà sur papier. Et puis, un jour, un de mes meilleurs amis qui habitait dans l'immeuble juste à côté de chez moi, me dit qu'il a le jeu, pas en français, qu'il a le jeu en japonais. Et donc là, moi j'étais comme un ouf et tout, sauf que je comprends pas le japonais, je squatte le jeu. Et j'ai très vite été bloqué. Donc j'ai très vite été bloqué et j'avais la frustration parce que j'aimais tellement la patte graphique de Link to the Past. C'est pour moi incroyable. Il y a un enchantement qui se joue déjà à l'image. Alors il se prolonge après avec soit avec le storytelling, avec la musique, avec l'univers, avec tout en fait. Mais ne serait-ce que visuellement, je trouve que les graphismes sont c'est pour moi une période bénie à ce niveau-là. Mais il y a un truc tellement je sais pas tellement puissant. Donc voilà. Donc je suis confronté à ce jeu-là, je kiffe, mais je suis très vite bloqué. Donc j'arrive après à l'avoir en version anglaise. Toujours pas de version française. Et là, bah, franchement, je joue et je joue. La particularité de ce jeu, c'est que je joue et ma mère, qui était une passionnée de jeux vidéo également, est avec moi quand je joue. C'est-à-dire que dès que je fais une partie, elle s'assied à côté de moi et elle veut regarder le jeu parce qu'elle est prise par l'aventure, etc. Sauf que mon anglais n'était pas parfait encore à l'époque, loin de là. Il est toujours pas aujourd'hui. Et je me retrouve confronté, en fait, je suis bloqué pendant des jours et des jours, voire des semaines, parce que je rappelle, on n'a pas Internet. À un moment donné, très vite dans le jeu, il faut pousser un trône et le pousser pour rentrer dans une petite caverne secrète. Sauf que ça, j'avais pas compris qu'il fallait faire ça. Et donc, j'ai galéré jusqu'à ce que mon pote me dise, mais si, il faut faire ça. Et donc voilà, j'ai galéré très longtemps. Voilà, c'est ça mon premier souvenir avec Zelda 3.
Et du coup, t'as parlé de ta mère, et ta mère t'aidait pas à traduire ou des trucs comme ça, ou te donnait pas
des indications? Non, ma mère parlait français, c'est tout, elle parlait pas anglais, et elle était plutôt, c'était, elle était plus dans l'action, c'est-à-dire s'il y avait un ennemi, elle me dit, ah, attention, il y a un ennemi, etc., mais niveau traduction, non, c'était pas possible, malheureusement.
Et là, on parle des premiers Zelda. Est-ce qu'avant ça, tu connaissais déjà un peu comme l'univers, ou c'est vraiment celui-ci avec lequel t'as découvert?
Non, je connaissais l'univers parce que j'avais déjà joué sur NES, mais encore une fois, j'étais pas. J'aimais bien l'univers, mais j'arrivais pas à aimer les jeux en. Je sais pas, il y avait un truc vraiment qui me bloquait, et je trouvais que les graphismes étaient déjà datés en fait à l'époque où j'ai découvert les jeux, et donc. J'étais pas vraiment de ouf. C'est vraiment Zelda 3, Link to the Past, qui m'a fait devenir un vrai fan de l'univers et de la licence, de la franchise et de la saga, quoi.
C'est marrant parce que je pense que tous les Zelda, en fait, on arrive à se retrouver bloqué ou non. Alors, la traduction, évidemment, genre, c'est sûr que ça aide pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a des moments où on devient fou et que tu tentes de pousser absolument tout dans le jeu.
Bah ouais, ouais. Quand tu sais qu'à un moment donné, t'as été bloqué parce que t'as pas poussé un truc lambda à droite ou à gauche, bah t'as tendance à te dire, ça se trouve, tu rates un truc. Ça, c'était un petit peu le même effet avec les bombes pour casser les murs. Ouais. Tu te disais, ah, peut-être que là, il faut mettre une bombe ou quoi. Mais en fait, non. Donc voilà.
Tu te retrouves à prendre les bombes un peu partout et les mettre à des endroits totalement random.
Ça devient Bomberman.
Mon premier Zelda, c'était de Minish Cap.
Ah oui.
Et lui aussi, pareil. Genre, tu mettais des bombes partout. En plus, il y a des moments où tu pouvais être petit, grand, puis tu voyais des petites entrées. Tu te dis ça, ça doit être pour ça, mais en fait, pas du tout. Enfin, genre, c'est drôle, ce genre de jeu. Tu deviens un peu fou, un peu comme les Metroid à l'époque aussi, qui était un peu comme ça.
Ouais. Metroid, ouais, sur Super Nintendo, le Super Metroid, il m'a rendu complètement dingue, moi. C'était tellement dur, et encore une fois, je le rappelle, désolé, je suis vieux, c'était avant Internet. Donc en fait, t'avais deux possibilités pour, quand tu étais bloqué dans un jeu, t'avais deux possibilités. La première, c'était demander à quelqu'un qui connaît le jeu, qui l'a fait et qui sait comment t'en sortir. Donc, vu la quantité de jeux qu'il y avait, c'était pas forcément gagné. Et la deuxième possibilité, c'était d'avoir la soluce dans un magazine. Sauf que si le magazine qui avait la soluce était sorti il y a 3 mois, 6 mois, 1 an, eh ben, t'étais fichu, quoi. Donc, c'était un travail d'archivage et il fallait diguer à droite et à gauche pour réussir à trouver le bon magazine. Et ça a été le cas pour plein de jeux. Mmh. Par exemple, Mortal Kombat, pour trouver les fatalités, parce que les fatalités, maintenant, tu mets le menu pause et elles sont affichées. À l'époque, non. C'est-à-dire que tu savais pas comment faire les fatalités. Donc parfois, je m'en rappelle même, je crois que c'était la borne Mortal Kombat 3 où j'allais dans ma ville, j'allais jusqu'à la salle d'arcade où il y avait la borne Mortal Kombat 3, je notais les fatalités qui étaient écrites sur la borne, je rentrais chez moi pour jouer sur Super Nintendo et j'essayais de reproduire les fatalités. Mais après, ça, j'essayais de pas louper le magazine qui allait te donner toute la liste des fatalités à reproduire. Mais ouais, c'était vraiment une autre manière de fonctionner, quoi.
Ces magazines, en plus, qui sont... J'ai appris ça il n'y a pas longtemps, mais en fait, qui sont écrits par les game designers. Genre, moi, je pensais qu'il y avait... Et les journalistes... Je pense que c'est un mix de journalistes et de game designers.
Ouais, beaucoup de journalistes quand même. En tout cas, en France, on avait beaucoup de journalistes et on avait quelquefois des gens de l'industrie du jeu vidéo. Mais en tout cas, toutes les solutions, etc., étaient... pour beaucoup fourni par les éditeurs, ouais.
Ouais. Et je savais pas, moi je pensais qu'il y avait quelqu'un qui se butait pendant 2 mois là, qui faisait tout le jeu.
Il y avait parfois.
Ouais, je pense qu'il y avait parfois, ouais.
Ouais, il y avait parfois des gens qui c'était leur le métier, quoi, vraiment, hein. Mais enfin, pour trouver la fatalité, par exemple, pour revenir à Mortal Kombat, comment tu fais? Tu peux pas le deviner, tu vois.
C'est ça. Ouais.
Même pas, tu peux pas vraiment tryhard le jeu ou quoi. Tu peux pas le deviner. Donc, t'es obligé d'avoir l'info.
Et pour revenir à cette époque-là où t'avais pas forcément l'info, est-ce que t'as même, genre, été jusqu'à appeler? Parce qu'il me semble qu'il y avait aussi des hotlines.
Hotlines,
ouais, ouais.
Ah oui.
C'est fou, ça.
Alors, très honnêtement, moi, j'avais pas le téléphone chez moi. Donc, okay. Je pouvais pas appeler. Et il y avait aussi le Minitel, l'ancêtre d'Internet. Et, un jour, j'étais chez une de mes tantes qui avait le Minitel et je suis parti et j'ai fait le 3615 Nintendo, mais ça coûtait très cher en fait. Mmh. Mais j'ai été dessus et juste voir je me rappelle à l'époque c'était Gremlins, t'avais Gizmo qui apparaissait sur le 3615 Nintendo, j'étais comme un fou. Je voulais des astuces et tout, mais non, j'allais pas jusque là parce que j'avais pas la possibilité.
Je comprends.
Attends, ça devait être drôle. C'était des hotlines avec des vraies personnes.
Ouais,
c'était des vraies personnes bien sûr qui répondaient.
C'est excellent. Comment je fais les fatalités?
Mais je te jure, c'était vraiment ça. Après, ça a été vraiment là où c'était vraiment à bloc. Je pense que c'était l'époque des 8 bits, donc de la NES, de la Master System, de la Game Boy. Là, cette époque-là, vraiment, ça marchait beaucoup. À partir de l'arrivée de la Mega Drive, de la Super Nintendo, je pense que justement, les magazines ont vraiment pris le relais pour tout ce qui était trucs et astuces. Hein. Il y avait des bibles, ils appelaient ça des bibles de Solus qui sortaient. Tous les 3 ou 6 mois, donc voilà quoi.
Mais pour revenir sur les hotlines, je me souviens avoir vu, je pense, un documentaire où vraiment tu vois comme les gens dans des cubicles là, et ils ont des énormes classeurs et c'est en mode ok, on m'appelle pour ce jeu là, je dois vite feuilleter le truc et essayer de trouver la solution.
Ça, c'est drôle.
Un instant, s'il vous plaît, j'essaye de. Quel niveau vous m'avez dit, etc. Tu vois, c'est lunaire.
Ouais, c'est dingue, vraiment.
Est-ce que vous avez passé cette porte là ou vous y êtes pas encore?
Ouais, c'est vraiment.
Mais des fois, ils refaisaient le jeu en entier avec toi parce que t'avais pas de sauvegarde.
Ouais.
Donc sur la majorité des jeux vraiment à l'époque, c'était un système parfois de password, donc de mot de passe. Et quand t'avais pas ces systèmes-là, je prends par exemple Alex Kidd sur Master System. Si t'es bloqué à un endroit et que tu y es pas arrivé encore, tu dois refaire tout le jeu. Et donc parfois le mec de la hotline, il refaisait une bonne partie du jeu avec toi, mais lui il en avait rien à cirer. Hein. Tu dépensais quand même pas mal d'argent, quoi.
Ouais, c'est ça.
Putain. Alors qu'il y a eu un moment, moi je me rappelle, le seul guide que j'avais, c'était les guides Pokémon. Parce que c'était trop bien, t'avais toutes les routes, tu savais exactement quel Pokémon était là, le jour, la nuit, et je l'avais pour or et argent. Et il était vendu avec, je me rappelle, c'était Pokémon avec le...
Alors ça, c'est une chose qui a été faite aussi, c'est que on a vendu des jeux, notamment des jeux NX ou Square, ils n'avaient pas encore fusionné à l'époque. Par exemple, je me rappelle, Zelda 3, il y avait un guide, hein, mais c'était des versions spéciales. Soit c'était vendu à part, soit c'était des bundles avec le jeu, comme par exemple Mystic Quest. Mystic Quest, t'avais avec, si tu souhaitais, une version où t'avais le guide. Et je me rappelle, moi j'avais cette version-là, et c'était fort utile, on va pas se mentir. Mais il y a un truc aussi pour les trucs et astuces qui était génial, c'était ce qu'on appelait les Game Genie. Donc les Game Genie, c'était des cartouches spéciales qui te permettaient de tricher. En fait, tu mettais cette cartouche spéciale dans tout un tas de jeux, tu pouvais par exemple être invincible. Tu pouvais ne jamais mourir, avoir des munitions illimitées, tout un tas de trucs. C'était incroyable. Ça s'appelait le Game Genie. Il y avait deux différents. Il y avait Game Genie et un autre. Et c'était vraiment, vraiment... quand t'avais ça, t'étais le roi du monde, quoi.
Et pour revenir à Zelda, je pense que t'as fait une émission dans la légende sur ce jeu-là.
Yes.
Tu partageais, je pense que c'est la deuxième en plus, ou troisième, enfin, au tout début des émissions. Et tu partageais le fait que tu avais joué avec ta mère, mais aussi avec ton fils plus tard. Est-ce que tu peux nous parler justement de cet aspect générationnel?
Ouais, bien sûr. Zelda 3, c'était tellement... pour moi, c'est un des premiers jeux que j'ai voulu transmettre. C'était obligatoire. Il y a tellement tout dans ce jeu. Il est tellement magique. C'était un des premiers jeux. Donc, je l'ai fait avec ma maman. Après, je l'ai fait avec mon fils. Et même lui, il est tombé tout de suite dessus. Et un petit peu comme Secret of Mana où on pouvait jouer ensemble. Là, c'était encore plus immersif parce qu'on était vraiment à deux sur le jeu. Mais Zelda 3, ouais, c'était un des premiers jeux où vraiment je me disais vivement que mes enfants puissent jouer à ce jeu, quoi. Parce que ouais, il y a tout dedans. Il y a tout. Vraiment, pour moi, c'est véritablement... il est dans mon top 3 sans problème, même si c'est très difficile de faire des top 3, hein, ouais. Des top 5 ou même des top 10. Mais c'est un jeu qui m'a marqué à jamais et ce côté transgénérationnel, je pense que c'est un jeu qui n'a jamais vieilli et qui ne vieillira jamais. C'est la base de plein de choses par la suite. Donc, et même si j'ai énormément d'amour pour les Zelda sur N64, par exemple, hein, que j'ai vraiment kiffé, que j'ai poncé, pour moi, ça restera Link to the Past, on va dire, vraiment la première pierre. Vers un univers qui va s'étendre jusqu'à maintenant encore, même si Zelda 1 et 2 sont importants. Zelda 3, il a eu une importance qui est encore plus énorme.
Je t'entends. Est-ce que t'es hype là? Genre, ils ont annoncé du coup et on a une date fixe pour Tears of Kingdom. Comment tu te sens par rapport à ça?
Ouais, je suis hype, mais en même temps, j'ai toujours pas fini. Breath of the Wild. J'ai perdu ma sauvegarde à un moment, donc il faut que je recommence tout. Je kiffe, hein. Je le trouve fabuleux et tout. Il faut que je me remette dedans. Honnêtement, il faut que je me remette dedans. J'ai envie, mais je manque un petit peu de temps. Et puis, le seul jeu à qui j'ai donné du temps ces dernières années véritablement, c'est Elden Ring. Donc, je lui ai donné un peu trop de temps même, à ma plus grande surprise. Mais il faut que je me remette dans Breath of the Wild, vraiment.
Tu peux faire ton marathon, tu commences par Breath of the Wild et au moment où tu le finis, l'autre sort, comme ça,
ça serait pas mal.
C'est vrai que j'ai raté le Nintendo Direct. Il faudrait que je regarde un peu.
Ouais, il y avait des trucs sympas. Après, bon, Professeur Layton, par exemple, entre autres. Mais les gens sont partagés. Donc voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres anecdotes là auxquelles tu penses quand on parle de Zelda?
Non, franchement, je pense que c'est quand même mes plus grandes anecdotes. C'est de l'avoir fait en japonais, en anglais et puis en français. c'est vraiment... c'est un des jeux que peut-être j'ai le plus recommencé. Okay. Et c'est un jeu que j'ai envie encore de recommencer. Je m'en lasserai jamais. Tout l'univers, c'est vraiment un voyage. Et c'est ce que je recherche dans le jeu d'aventure. C'est ça, c'est un voyage qui me permet aussi de me vider la tête, de m'évader, de me projeter dans un univers différent. Donc, non, franchement, tout ce que je peux dire, c'est jouez-y. Si vous ne l'avez pas fait, faut foncer dessus, même encore maintenant. Vraiment.
Let's go. Du coup, enchaînons et parlons du deuxième jeu de ton top. On retrouve à la deuxième place Street Fighter 2, le jeu de combat légendaire développé et édité par Capcom. Il est sorti dans un premier temps sur board d'arcade en 1991 et ensuite sur Super Nintendo dès 1992.
Yes.
Premier truc que j'ai envie de te demander, est-ce que toi tu l'as découvert sur board d'arcade ou plutôt tranquillement dans un salon?
Et non, je l'ai découvert sur board d'arcade. Et... il faut savoir, à l'époque, donc début des années 90 et jusqu'à la fin des années 90, on va dire à peu près, on avait des salles d'arcade et on avait des bornes d'arcade dans les cafés, dans les gares, etc. Et moi, où j'habitais en banlieue de Rouen. Et à Rouen, tous les ans, il y a une grande fête foraine, une des plus grandes de France, et il y a des salles d'arcade. Et un jour, je vais à cette fête foraine et là, je vois quoi? Je vois un jeu qui s'appelle Street Fighter 2. Et je bloque dessus. C'est-à-dire que je me rappelle encore le jour où j'ai découvert ce jeu.
Oh wow.
Et il y a j'avais pas d'argent hein, pour jouer. Hein. Et je regarde des matchs. Et là, il y a un mec, un jour, on était avec un pote, puisque c'est sur plusieurs jours la fête foraine. Je suis retourné ce jour-là. Et un de mes potes avait 10 francs à l'époque, ce qui correspond à 1,50€, qui correspond à deux parties. Ou à une partie, versus. Et donc on joue et là j'avais vu Blanca et je connaissais pas les noms à l'époque.
Ouais.
J'avais dit ouais, je vais prendre le vert il a l'air fort. Et lui il avait pris Dalchim avec les longs bras et tout. Et là c'est une découverte de ouf et je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est dingue, c'est incroyable. Et je suis rentré chez moi, j'ai pu faire qu'une partie et c'est resté dans ma tête, mais pendant des semaines, des mois.
Okay.
Et mon père habitait à Paris et je vais à Paris un jour. Et je vais à la gare, du coup, de Rouen. Et en attendant mon train, il y a une borne d'arcade Street Fighter 2. Et là, ça m'a bousillé. Parce que j'habitais à... ça doit être franchement facile. Hein, 6 kilomètres de la gare, de ma cité jusqu'à la gare. Et je vous dis la vérité, c'est que je retournais après de ma cité jusqu'à la gare, parfois avec juste 5 francs pour faire juste une partie, juste pour ça. Et j'y allais à pied.
Oh, wow.
Parce que j'avais pas d'argent pour payer le bus.
Okay.
J'y allais à pied tellement le jeu m'a vraiment... Mais c'était fou à l'époque. C'était malade. C'est une révolution. C'est une révolution du jeu de combat. Ça a tout changé. C'est la grammaire du jeu de combat. C'est ce qui a instauré la grammaire du jeu de combat par la suite, du versus fighting. Et puis après est venue la Super Nintendo. Et ma Super Nintendo, quand je l'achète, je me rappelle encore le jour, je me rappelle le lieu. C'est mon père qui m'achète ma Super Nintendo. Et là, on me propose deux packs. On me propose le pack, elle était sortie depuis un moment, et il y avait Street Fighter 2 Turbo qui était sorti. Et donc, on propose le pack avec Street Fighter 2 Turbo ou le pack avec Street Fighter 2 et un autre jeu, en l'occurrence Pilot Wings. Et là, je me dis, vas-y, moi, je veux deux jeux. Je veux deux jeux. Donc, je prends Street Fighter 2 et Pilot Wings, et je me rappelle, mais des heures et des heures à jouer à Street Fighter 2, prendre tous les personnages pour connaître toutes les fins, savoir le jeu sur le bout des doigts, mais c'était incroyable. Et puis les parties avec les amis, parce qu'à l'époque on jouait énormément en écran splitté ou sur la même console en versus.
Ouais.
Donc là, en l'occurrence, pas d'écran splitté sur Street Fighter 2, mais vraiment du local en un contre un. Mais les heures et les heures, c'était fou. Mais vraiment, ce jeu, c'est une de mes licences préférées encore aujourd'hui.
Est-ce que j'avais demandé, mais l'autre jeu, il est devenu quoi, du coup? T'as dit, t'as pris Pilot pour Wings. Deux jeux, mais ouais, Pilot Wings.
Ah, Pilot Wings, j'y jouais. C'est un jeu qui m'a permis de me faire prêter d'autres jeux. C'est-à-dire que je dis, ah, j'ai un super jeu. Vas-y, je te prête, prête-moi ton jeu. Donc comme ça, j'ai pu faire une petite rotation. Alors qu'en vrai, Pilot Wings, les gens, parce que j'ai dû le vendre de fou, Pilot Wings, parce que les gens voulaient pas y jouer. Je disais, mais t'es dingue ou quoi? C'est un jeu de malade. Tu fais de l'avion, tu fais du parachute, tu fais des trucs, tu dois atterrir sur des cibles, le mode 7 et tout. Alors qu'en vrai, personne voulait jouer à Pilot Wings. Hein.
Très malin. En termes de jeu de combat aussi, je sais que ça a vraiment rien à voir et c'est bien des années après, mais qu'est-ce que t'as pensé d'un genre Def Jam Fight for New York, par exemple?
Ouais, Def Jam, j'ai kiffé. C'était malade. Tu retrouves tes rappeurs préférés dans un jeu de combat, ils se tabassent la tronche, mais c'était que du kiff. Et on désespère d'en revoir un jour. Après,
ça,
en termes de licence, c'est très, très compliqué, je pense, aujourd'hui. Bien plus qu'il y a... Def Jam, c'est bien. Il y a bien 15, facile. Ouais, 15, même entre 15 et 20 ans, je pense, Def Jam. Hein.
Mm.
Ouais, 15 ans, 16 ans... Un truc comme ça, peut-être 18 même. Mais non, c'était incroyable. C'était sur PS2 et Xbox, hein, je crois, hein, si je dis pas de bêtises.
Mm.
Très, très bon jeu. Un bon délire. Très bon délire.
Et Street Fighter 2 aussi, c'est un de tes premiers épisodes dans la légende.
Ouais.
Et je me suis demandé, je sais pas, en regardant ça, tu vois, je me suis dit, à quel point ça a été facile d'amener un projet comme dans la légende dans une chaîne comme Canal+. C'est une grosse question, mais je me rappelle que c'était un des premiers épisodes et je me suis dit, waouh, c'est fou que genre il y ait des choses comme ça sur Click TV Canal+.
Ça a pas été une mince affaire dans l'absolu de ramener un programme tel que dans la légende à la télévision, ou même de ramener dans la légende de pouvoir le produire et le diffuser, trouver un diffuseur. Chose qui n'est, on n'est plus dans la même, comment dirais-je? C'est plus la même énergie aujourd'hui, dans le sens où bah il y a des gens qui aimeraient bien voir dans la légende et tant mieux. Aujourd'hui on est à quasiment 100 épisodes. On a pu traiter de multiples sujets vraiment variés, de Street Fighter 2 à Au Feu de l'Amour, à Takeshi Kitano, à One Piece, à Ghibli, vraiment à Céline
Nolan, Dion, ouais, c'est beau.
À Nolan, donc vraiment c'est ce que j'aime dans cette émission et c'est vraiment un truc que je voulais faire depuis longtemps et j'en ai parlé à Mouloud et Mouloud m'a dit bingo, allons-y et voilà, lui aussi c'est un truc qu'il kiffe et dès que j'en ai parlé, il m'avait dit ouais, trouve un concept d'émission et je vais parler tout de suite de Dans la Légende. Il m'a dit bah on le fait et voilà. Donc ça faisait longtemps qu'on voulait faire un format comme celui-là et puis Click TV, la chaîne, quand elle s'est lancée, on n'avait pas lancé Dans la Légende, on l'a lancé 6 mois après, mais c'était vraiment l'émission que je voulais faire en fait. Dans la Légende, c'est une émission que je veux faire depuis des années et des années et des années, et aujourd'hui j'aimerais bien la faire évoluer, la faire grandir et pouvoir faire des lives Twitch sur Dans la Légende pour vraiment impliquer les gens aussi en direct, faire même des projections, des émissions en live dans des cinémas, faire des projections après, etc. Il y a plein de choses que j'aimerais voir évoluer. C'est pas avec ça que je gagne ma vie, très honnêtement, hein, mais c'est un des projets qui me tient le plus à cœur.
C'est trop cool. En vrai, c'est trop... Ça fait du bien de voir genre des un peu des trucs passion, on va dire. Et surtout, les jeux vidéo, je trouve que ça a été... Nous, on a grandi et dans une génération qui n'a pas été... Tu sais, à la télé, il n'y avait pas de jeux vidéo. Et puis, je trouve que même encore maintenant, il y a certains programmes où genre on en parle et tu as l'impression que c'est un peu une semi-blague, tu sais, genre...
Mais ouais.
Et je trouve ça trop bien qu'il y ait des émissions comme bah, Dans la Légende qui permettent de aussi montrer que bah, c'est beaucoup plus que ce que les gens pensent. C'est même, je pense qu'il y a j'ai entendu pas mal de gens aussi dans l'industrie qui disaient, j'allais dire à mes parents, oh, je vais travailler dans les jeux vidéo. C'est tout le monde est là en mode, bah, ça doit pas payer, quoi. Ça, c'est sûr que c'est pas possible, c'est pas un métier.
Tu veux pas trouver un métier quand même?
Ouais, bah, c'est ça. Un vrai métier. Et donc, en fait, je trouve ça fou que, bah, déjà, je trouve ça fou qu'il y ait certains parents qui accepté, qui s'est dit, bah, attends, peut-être bien que sûr. Ça peut marcher, tu vois. Mais que maintenant, on voit qu'à la télé, on est presque à se demander. Enfin, on en arrive à avoir une vraie demande, alors qu'avant, c'était un média tabou. Enfin, je sais pas comment expliquer le truc, mais on voulait pas trop en parler, ou en tout cas, c'était vu, ça avait une vraie connotation un peu négative. Je me suis demandé, est-ce que toi, t'as des journalistes, jeux vidéo, que tu suis, genre, de façon régulière, que tu regardes peut-être des youtubeurs ou des choses comme ça qui essaient de parler beaucoup de jeux vidéo,
Parce que j'en suis, ouais, moi je regarde beaucoup de choses hein, autour du jeu vidéo encore maintenant, hein, tu vois, jusqu'à très récemment, jusqu'au changement de propriétaire de Gamekult, je lisais beaucoup de choses et je regardais beaucoup d'émissions sur Gamekult, notamment Retro Dash, qui est une émission rétro que je kiffais. Toute l'équipe de Gamekult que je suis encore hein, maintenant autre part, Julien Chiez, Carole. Il y a plein de gens que je suis dans le jeu vidéo, vraiment, même jeuxvideo.com, je regarde à peu près tous les sites autour du jeu vidéo, tous les gros sites qui existent encore, et après beaucoup de créateurs de contenu. Je m'intéresse énormément à l'industrie sous toutes ses formes. Après, je vais pas regarder des vidéos de gameplay, ne m'intéresse pas. Ça, c'est quelque chose, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, j'aime les débats, j'aime les analyses, j'aime quand on nous parle d'un jeu, il peut y avoir du gameplay, mais qu'on nous parle du jeu véritablement. Mais déjà, j'aime pas les vidéos de gameplay commentées, etc., parce que j'ai pas envie qu'on me spoile le jeu. Donc voilà.
Je pense qu'on va enchaîner et maintenant conclure sur ton troisième et dernier jeu. On retrouve Final Fantasy VII, bah sorti en 97 sur PlayStation, donc le jeu de rôle développé par Square, qui a connu un énorme succès critique et commercial, et qui a d'ailleurs eu son remake, si je ne me trompe pas, en 2020 sur PlayStation 4. C'était le premier FF à avoir des graphismes 3D.
Oui, tout à fait. Et puis, quel est FF ? C'est mon premier FF tout court, en fait.
Ok.
Donc, FF7, c'est un concours de circonstances, en fait. Je connaissais pas du tout la licence, alors que j'y avais déjà joué en vérité, mais je connaissais pas la licence, je connaissais même pas le jeu. J'avais vu dans la presse où les gens s'excitaient beaucoup sur le jeu, mais ça m'avait pas tenté plus que ça. Et j'avais deux jeux à revendre, et je vais en boutique de jeux vidéo, et là je vois Final Fantasy VII, et je vois il y a plusieurs CD à l'intérieur. Et je me dis, tiens, ça veut dire il est long le jeu. Ça veut dire je vais rentabiliser, tu vois. C'est comme ça que j'ai pensé. Et chercher un jeu d'aventure, parce que à partir de Zelda 3, je kiffais les jeux d'aventure véritablement. Jeux d'aventure RPG au tour par tour, beaucoup moins. Donc c'est important parce que Final Fantasy VII à la base c'est du tour par tour. Et là, c'est un petit peu ce qui me bloque, c'est que je me dis, ah ouais, mais non, on dirait du tour par tour. Aïe aïe aïe. Après, je dis vas-y, allez, j'échange mes deux jeux. Je rentre chez moi et là je me prends une tarte phénoménale. Et Final Fantasy, pareil, c'est un jeu que je vais faire en intégralité avec ma mère. En intégralité. Elle voulait pas que je joue sans qu'elle soit avec moi. Donc j'ai vraiment fait tout le jeu avec elle. Et c'était incroyable. Et puis c'est aussi un des jeux où quand tu mettais le CD dans une chaîne Hi-Fi lecteur CD, tu pouvais écouter les musiques.
Waouh, j'ai jamais su ça. Ok.
Ah ouais. Et y avait plein de jeux que tu pouvais écouter les musiques comme ça quand tu les lisais dans une platine CD. Et ouais, c'est une telle poésie, un tel monde. Et pareil, j'ai l'impression d'avoir passé, 700 heures sur Final Fantasy. le casino, les chocobos, c'est tellement vaste, t'avais l'impression d'être, en vrai, c'était, t'avais l'impression d'être dans un monde ouvert, qui n'en était pas un, mais t'avais vraiment cette impression-là. Cette impression de grandeur, de gigantisme, c'était fou à l'époque. Final Fantasy, c'est vraiment, une tarte. Et c'est la PlayStation. Donc la PlayStation, c'était pas n'importe quoi. C'était on arrivait dans une nouvelle ère. Donc ouais non, gros kiff. Final Fantasy, c'est gros kiff.
Et c'est marrant que tu dis ça. Je pense que c'est peut-être la 8e fois que Final Fantasy revient dans le top de quelqu'un.
C'est vrai.
Ouais, pas celui-ci en particulier, mais de manière générale la licence. Et c'est marrant parce que ni Yann et moi avions la PlayStation à cette époque-là, donc on est vraiment passé à côté. Mais du coup, on apprend à mieux comprendre la licence. Déjà, on a vu plein de gameplay et tout, mais à travers les expériences des invités, donc c'est vachement cool.
Ah, sérieux, vous êtes complètement passé à côté?
Moi, oui, en tout cas. Yann, toi, est-ce que tu as joué
Dommage.
Non, franchement, j'ai jamais touché.
Mais même le remake?
Non, mais j'ai jamais eu de PlayStation.
Mais.
Tout court.
Mais même maintenant?
Je pense que j'ai eu une PlayStation 4 à un moment, mais j'avais la Xbox en même temps et je jouais plus sur la Xbox.
Oh, punaise. Franchement, après, j'aime beaucoup la Xbox, hein. Mais Final Fantasy VII, faites le remake, les gars. Je sais pas. C'est une masterpiece du jeu vidéo. C'est grandiose.
Est-ce qu'il y a
même pas de mots.
Est-ce qu'il y a du tour par tour au final dedans?
Alors, dans le nouveau, tu peux choisir au tour par tour ou pas. Voilà. Ok.
Et si ça ne l'est pas, ça devient quoi?
Bah, du action RPG, quoi. Plutôt à la Zelda, quoi.
Enfin, ok.
Mais non, le jeu est fabuleux, les invocations, tout ça, c'est fantastique, vraiment.
Et tu disais, avant que tu n'étais pas du tout dans ce style-là de jeu, est-ce que ça t'a comme ouvert la porte vers les JRPG et t'as beaucoup plus exploré tout ça par la suite ou pas spécialement?
Alors oui, parce que ça m'a ouvert au tour par tour.
Okay.
Donc du coup, après, j'étais plus enclin à découvrir d'autres jeux, notamment Final Fantasy VIII, 9, 10. Donc ça m'a mis dans le truc, vraiment. Même si j'ai pas retrouvé la magie du 7 dans le 8 et dans le 9, j'étais quand même dedans. Et puis ça m'a permis, voilà, de m'ouvrir vers le JRPG, le tour par tour, mais peut-être je pense que ça m'a initié pour vraiment après et découvrir après le tour par tour. Il y en avait déjà dans Mystic Quest, c'était du tour par tour. C'est pour ça que j'avais Mystic Quest, c'est un petit peu je crois que c'est le premier tour par tour auquel j'ai joué, et j'avais aimé, mais j'étais frustré de pas pouvoir vraiment vraiment jouer comme un Zelda. Donc c'était un peu frustrant, mais malgré tout, je trouve que ça a été une porte d'entrée intéressante qui m'a peut-être permis quand même de me dire sur FF7, non, vas-y quand même, on sait jamais. Donc après, ouais, le JRPG, c'est un genre que j'affectionne énormément encore aujourd'hui, même si, voilà, ça, bah, par exemple Dragon Quest, sans FF7, j'aurais jamais joué à Dragon Quest.
Ok.
Très honnêtement.
Et plus largement, est-ce que tu étais déjà comme inspiré et curieux autour du Japon, des mangas, etc. Ou c'est une des portes qui t'a...
Non, déjà bien avant FF7. Hein,
okay.
Le manga... Enfin, l'animé d'abord. L'animé, puisqu'on n'avait pas le manga à cette époque-là, au tout début des années 90, fin 80, mi-80. Ouais, l'animation d'abord. Et... l'animation plus le jeu vidéo, ça fait grandir en moi tout de suite une passion pour le Japon, pour un monde que je ne connaissais pas, un pays que je ne connaissais pas, une culture que je ne connaissais pas, que j'ai appris à connaître par la suite, que j'ai découvert bien après. Mais en fait, ça a nourri une sorte de fascination, quoi. Puisqu'on se disait, il faut remettre dans le contexte, à l'époque, le jeu vidéo, c'était japonais. Le jeu vidéo occidental était minoritaire,
ouais.
En vérité, comparé à la scène japonaise. Donc, c'est après hein, qu'il y a un revirement. Le jeu vidéo japonais s'est un peu endormi sur ses lauriers, on va pas se mentir, et un peu des excès de confiance, hein, un Konami, entre autres. Hein, mais ouais, non, c'est ça. J'ai été passionné très tôt par le Japon. Mais FF7, ça, c'est vraiment un de mes meilleurs souvenirs de jeux vidéo. Moi, j'aime quand le jeu vidéo, il me fait voyager, il me transporte, même si je peux aimer des jeux comme PES, FIFA ou Street Fighter, où j'ai pas forcément de voyage, mais en tout cas, je rentre dans l'univers. Les jeux d'aventure, d'action, RPG, les RPG, c'est des trucs qui m'ont fait vivre d'autres vies sans jamais bouger de mon canapé. Donc c'est vraiment un genre que je kiffe énormément.
J'avais une question un peu, on revient au moment où tu t'es procuré le jeu, mais t'as dit que t'avais deux jeux à revendre et du coup tu l'as changé. Est-ce que t'es du genre à genre jamais garder en fait tes jeux, finalement tu fais que faire des échanges, etc.
Ben non, ça c'était à l'époque, j'avais pas d'argent.
Okay.
J'étais obligé, on était obligé soit de se prêter les jeux,
Mmh.
soit de les échanger, soit de les revendre. Mais quand tu échangeais un jeu, t'avais plus en bon d'achat qu'en argent. Donc c'était toujours plus avantageux si tu voulais reprendre un jeu que d'avoir de l'argent liquide. Donc on était obligé à cette époque-là. Moi, à cette époque-là, j'avais un jeu pour mon anniversaire ou pour Noël, et c'est tout. Donc on n'avait pas des bibliothèques de jeux, des médiathèques de fou. Donc c'était forcément où on se concertait avec les potes, on disait, bah attends, toi tu prends ce jeu-là, moi je prends ce jeu-là. Comme ça, on se le prête. C'était comme ça que ça fonctionnait. Parfois, on allait dans des autres villes pour aller voir des gens qu'on ne connaissait même pas, mais qui étaient potes avec un autre pote, pour lui dire, ah ouais, t'as ce jeu-là? Bah vas-y, prête-le-moi, moi je te prête ça, etc. Donc c'était beaucoup ça. Après, il y a des jeux que je voulais, que je conservais forcément. C'était les jeux comme ISS, GoldenEye sur 64. Ça, t'étais obligé parce que c'était des jeux multi, Bomberman, où tu pouvais jouer 1 an, 2 ans, 3 ans, c'était non-stop. Tu jouais tout le temps avec ce jeu-là, tu tapais des barres tout le temps. Mais sinon, le reste, une fois que c'était le jeu, une fois qu'il était fini, je le revendais. Enfin, je l'échangeais et voilà. C'était, il y a très peu de jeux que je refaisais réellement.
C'est-à-dire que même Final Fantasy finalement aura été échangé à la fin pour quelque chose d'autre ou
Ouais.
pas? Ouais.
Ouais, bah il a été changé pour Final Fantasy VIII, tout simplement. Donc, c'était son destin, hein, mais j'ai eu le temps de... J'ai passé trop trop de temps dessus. FF7, j'en ai loupé des contrôles au lycée à cause de ça. Hein. Franchement, c'était... Ouais, 80... Non, j'étais au collège encore, FF7. PlayStation 1. Je sais même plus. Je crois que je suis au début du lycée à cette époque-là. Ouais, je suis vieux.
Bon, on n'est pas si jeune non plus, non gars.
Ça va, les gars, ça va.
30 ans, quoi.
Bah, c'est jeune. J'en ai 40.
Oui.
Mais tu restes passionné, ça te fait rester jeune.
Exactement. Mais non, mais je peux. Et bah, ça, c'est un truc voilà, qu'on peut dire aussi, c'est que vous avez 30 ans, moi j'en ai 40. Le jeu vidéo, quand on était petit, c'était considéré comme quelque chose pour les enfants. Moi, à mon époque, c'était vraiment pour les enfants. Les adultes qui jouent aux jeux vidéo, on les regardait bizarre. Ouh, les adultes qui regardaient de l'animation japonaise, on les regardait bizarre, qui lisaient des mangas. C'était chelou ce gars-là, hein, bizarre, bizarre. Mais en réalité, aujourd'hui, on voit que c'est des médiums qui ont su s'imposer. Et c'est aujourd'hui des médiums culturels qui sont présents et qui resteront présents pour moi. Aujourd'hui, le jeu vidéo a pris sa place, comme le cinéma a su prendre sa place, comme la musique a su prendre sa place. C'est, enfin voilà, on n'a pas de. Aujourd'hui, à 40 piges, je me vois pas en bizarre quand je te dis que là, bah, juste après, là, je vais allumer ma console et je vais finir Dead Space, tu vois. Donc c'est, y a rien de bizarre en fait. C'est devenu quelque chose de commun. Et tant mieux. On a besoin aussi de se dire que le jeu vidéo, c'est plus un truc d'esthète, c'est plus un truc de geek. Je mets des gros guillemets parce que je déteste ce terme, mais c'est comme ça qu'on veut ce terme fourre-tout qu'on veut désigner parfois. Bah non. Donc c'est pour ça que je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur les médias. On a des émissions de cinéma qui traitent de différentes manières le cinéma. Pourquoi on n'aurait pas des émissions de jeux vidéo qui traitent de différentes manières le jeu vidéo?
Clairement,
Il y a un
clairement.
public pour ça. Et ça, c'est, faut que les patrons de chaîne le comprennent un jour. T'as peur de quoi? De mettre une émission qui parle de jeux vidéo? Pourquoi? Tu penses qu'il n'y a pas de public? Bah, c'est vrai que peut-être que l'audience, aujourd'hui, de toute façon, il y a peut-être très peu d'audience à la télévision. Donc, l'audience, elle est peut-être sur le net, mais les gens qui, les diffuseurs, soit plateforme ou chaîne, mettez un petit peu d'oseille On va vous faire des bêtes d'émissions et vous allez voir de l'audience, vous allez en avoir.
C'est marrant, ça t'a vraiment dû voir l'évolution et la perception changer entre toi au tout début où tu commençais à jouer et maintenant même aussi bien perso que pro, les nouvelles tendances et le fait que ce soit mainstream, ça change vraiment tout autour des jeux vidéo, quoi.
Bien sûr, mais ça change tout et tant mieux, encore une fois. Tant mieux parce que il y a en fait une culture, elle part de culture de niche pour arriver à culture mainstream.
Ouais.
Et tant mieux. Ça, parfois, quand ça arrive à culture mainstream, les gens qui sont issus de la culture de niche se sentent dépossédés. Mais encore une fois, on parle de culture ici. Pour moi, le jeu vidéo, il est capable aujourd'hui d'offrir une telle diversité qu'il permet de satisfaire tous les publics. Que tu sois là depuis le départ, que tu viennes d'arriver, que tu sois dans le jeu vidéo depuis 10 ans, 20 ans, tu peux trouver ton compte. Alors évidemment, ça a évolué. Donc, tu peux ne pas te retrouver dans tout, mais il y a une telle diversité de traitements, de thématiques, de gameplay, que tu peux trouver quand même ton compte, peu importe le type de joueur que tu es.
C'est sûr.
Et ça, c'est pour moi révélateur de la puissance de cette culture. Réussir à traverser le temps.
Puis il y a une comparaison qui était bonne aussi avec le cinéma. Je suis quelqu'un là sur YouTube qui s'appelle The Great Review. Je sais pas si ça dit quelque chose, puis qui a fait toute une vidéo. Mais franchement, ces vidéos, là, lui, elles sont incroyables. Et je trouve là-dessus, c'était beau de montrer que, ouais, dans le jeu vidéo, il y a eu des moyens qui ont été mis en place qui sont équivalents au cinéma, en fait.
Supérieur même. Mmh. Supérieur. Aujourd'hui, on a des jeux qui coûtent plus cher que des films.
GTA 5.
Quand t'as dit ça, ok, le cinéma est un art majeur et le jeu vidéo un art mineur. Non. Non. Mmh, mmh, mmh. Les biens culturels les plus vendus, quand tu vois que très souvent, c'est des jeux vidéo. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on est figé dans une sorte de monde où certaines personnes ne veulent pas voir le monde évoluer. Moi, j'arrive à un âge où j'ai connu le monde avant Internet, après Internet. Avant les réseaux sociaux, après les réseaux sociaux, ou en tout cas pendant. Il y a des choses que je comprends pas. Mais je me dis pas que le monde ne doit pas tendre vers ça. C'est juste que moi je comprends pas parce que je suis pas natif de cet univers-là, etc. Pour autant, je pense que si des gens trouvent un intérêt à ça, c'est que ça doit en avoir d'une manière ou d'une autre. C'est pas pour autant que je vais essayer de juguler le truc, quoi.
Yep. On va arriver là déjà sur les questions de la fin. T'en as parlé juste avant, mais est-ce que tu peux nous dire les jeux auxquels tu joues en ce moment ? T'as parlé de Dead Space.
Ouais, là je termine Dead Space.
Ok.
Juste avant le remake. Tu finis Dead Space juste avant le remake, non ?
Non, le remake. C'est le remake.
Ah, c'est le remake. Okay, sorti, okay. Je sais qu'il était pas encore sorti.
Non, c'est le remake que je termine. Là, je suis vraiment à la toute fin. Mm-hmm. Harry Potter, je vais commencer. Elden Ring. Toujours. Alors, c'est pas du tout ma cam à la base.
Okay.
Pas du tout. Tous les Souls, tous les Dark Souls, pas du tout ma cam à la base. Je joue à Call of en ligne. FIFA. J'ai repris FIFA cette année après une coupure de 8 ans à peu près.
Wow.
Je joue à quoi d'autre ? Je joue à... je réfléchis. J'ai recommencé la Légende de Thor sur Mega Drive. Voilà, je pense.
C'est déjà pas mal.
Après tout.
La Mega Drive OG ou comme un émulateur ?
Non, émulateur. Okay, émulateur. Okay. Sur le, j'ai pris le Steam Deck. J'ai pris le Steam Deck. J'ai mis les émulateurs et les jeux que j'ai dessus.
Nice.
Et voilà quoi. Je me fais plaisir. Et j'ai pris quoi d'autre ? J'ai commencé Alien aussi sur Steam Deck, mais j'ai pas encore eu l'occasion de jouer plus que ça. Mais voilà, ouais, beaucoup là, Dead Space, Elden Ring, Call of FIFA, et j'attends de commencer Harry Potter.
Trop bien. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour nous avant qu'on se quitte ?
Bah déjà, merci à vous pour l'invitation hein, et à tous les auditeurs. Franchement, jouez, amusez-vous, éclatez-vous. Aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est un univers tellement vaste que faut pas avoir honte, peu importe votre âge, de jouer. Au contraire, hein, c'est un kiff, c'est rien d'autre. Donc, et il y a un truc que j'ai oublié de dire, c'est tout à l'heure quand on parlait de la diversité du jeu vidéo, quand je vois aussi des psychologues, des thérapeutes qui utilisent le jeu vidéo pour aider des gens avec X ou Y problèmes, je trouve ça incroyable. Donc aujourd'hui, voilà, mon message, ça serait juste amusez-vous. C'est tout ce qui compte. Moi, je pense que c'est ce qui fait que je garde une âme d'enfant aussi, quoi. C'est que le jeu vidéo, j'ai grandi avec et il m'a jamais lâché, il me lâchera jamais, quoi.
Let's go sur ces belles paroles. Merci beaucoup, Sébastien Abdelhamid.
Merci à vous.
Bonne fin de journée. Ciao.
Ciao.
C'était Du Temps et des Jeux. Musique composée par Baxter. Si tu apprécies le podcast, parle-en à un ou une pote et partage-le sur les réseaux. Tu peux aussi nous mettre 5 étoiles et nous laisser un avis positif sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Enfin, tu peux nous suivre sur les réseaux. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Allez, à la prochaine.